Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer, partager vos expériences de vie, vos histoires. À mes côtés, ma camarade Ombline, comment allez-vous ma chère?
Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour, ici comme vous le savez, nous parlons de vous, de ce que vous traversez, de vos joies et de vos peines, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. 50 000 enfants disparaissent chaque année en France et parmi eux, certains sont victimes d'un enlèvement parental. La non-présentation d'enfants ou enlèvement parental concerne les cas où l'un des deux parents déménage sans le signaler à l'autre, quand il y a un refus de ramener l'enfant ou quand l'un des parents ne respecte pas les droits de visite. Et souvent, cet enlèvement intervient dans un autre pays, parfois très lointain. Or, à chaque pays, sa législation, un parent condamné en France ne peut pas avoir à rendre de compte dans un autre territoire. Pendant ce temps, eh bien, les enquêtes piétinent et c'est autant de semaines, de mois, voire même d'années pour ces parents à attendre que les choses avancent. Quels sont les recours des parents victimes d'enlèvement parental? Comment vivre avec cette absence douloureuse? Quels sont les espoirs qu'ils peuvent entretenir? Enlèvement parentaux, que faire? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires, nous sommes là pour vous écouter.
Vous n'hésitez pas à composer le numéro du standard d'Europe 1, le 39-21, 50 centimes la minute. Si vous préférez, vous pouvez aussi nous écrire, réagir, nous poser vos questions par Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Christelle. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Christelle.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, 47 ans et j'appelle des Côtes d'Armor.
D'accord. Alors, vous Christelle, en 2006, vous avez divorcé de votre conjoint avec qui vous aviez eu deux enfants. Lors de ce divorce à l'amiable, il a été convenu que vous ayez la garde et l'autorité parentale de Karim et de Sarah. Votre conjoint, originaire du Caire, en Égypte, avait un droit de visite. Comment cette décision s'était prise à l'époque? Elle avait été encadrée par un juge des affaires familiales?
Alors, le divorce s'était déroulé de manière complètement classique.
Oui.
C'était vraiment un divorce amiable, c'est-à-dire que nous avions un avocat pour les deux.
Oui.
Et on avait eu, au moment de préparer le divorce, en fait, mon ex-mari était donc au Caire et moi j'étais en France. Mmh. On a eu des échanges très cordiaux, très simples et très amicaux sur comment régler la vie des enfants une fois que l'on serait séparés. On a réussi à se mettre d'accord. Enfin voilà, tout s'est passé en bonne intelligence. Et enfin moi j'étais très agréablement
surprise.
Pas forcément surprise, mais en tout cas voilà, j'étais vraiment très heureuse qu'on arrive à se sortir aussi bien de ce moment qui aurait pu être difficile. En se disant, bon ben voilà, les enfants priment, on se met d'accord, on n'est pas d'accord en tant qu'adulte sur un certain nombre de choses, mais voilà, les enfants d'abord, on se met d'accord pour faire en sorte que les choses se déroulent.
Et ce que vous entendez par là, Christelle, c'est que cette garde des enfants, vous l'avez décidée à l'amiable et qu'elle n'a pas été signifiée de manière avec un document émanant de la justice. Vous avez décidé tous les deux comme ça? Il n'y avait pas un cadre législatif qui entourait la garde de ses enfants?
Il y avait, c'était un jugement, à l'époque on était quand même obligé de passer devant un juge pour faire entériner le jugement de divorce.
Oui, mais pour la garde des enfants?
Et la garde des enfants était incluse dans le jugement de divorce, donc tout était noté, tout était écrit et a été entériné par le juge qui a validé la tenue légale de ce que nous avions décidé, qui était somme toute quelque chose de très classique à l'époque. Aujourd'hui encore. Hein.
C'est-à-dire
les enfants étaient très très petits.
Vous en aviez la garde.
Restaient plutôt auprès de leur mère.
Oui.
Avec une visite du père et puis des vacances en Égypte sur une longue durée pendant les
longues
vacances d'été. Mmh. Pour pouvoir profiter un petit peu de la famille et du pays et de la culture. Sachant que c'était sur la base, ça semblait logique. Tant qu'ils étaient petits, on faisait comme ça. Après, les choses étaient toujours aménageables au fur et à mesure de l'évolution des enfants, de nos situations respectives.
En tout cas, on sent que vous étiez très conciliante, que vous avez été mise en confiance par votre ancien conjoint, le père de ses deux enfants, mais qu'au bout de 2 ans, vos enfants ne sont jamais revenus d'un été chez leur père. Qu'avez-vous ressenti ? Est-ce que vous avez compris tout de suite ce qu'il se passait ?
Alors, j'ai été alertée la veille du jour où je devais aller les chercher à Roissy, parce que, j'étais plus qu'alertée. Mon ex-conjoint m'a appelée en me disant, de toute façon, les enfants n'ont pas envie de rentrer. Donc, je ne peux pas les forcer, donc je ne les ramènerai pas. Donc là, moi, je l'ai rappelé tout de suite. Je lui ai dit, écoute, il est hors de question que tu ne les ramènes pas. Reviens avec eux, viens avec eux. On prendra du temps s'il faut, on discutera de tout ça avec toi et avec eux aussi, ils étaient très petits, mais on discutera de ça, mais voilà, il est hors de question que tu ne les ramènes pas, c'est impossible de ne pas les ramener.
Sauf qu'il a totalement refusé, puisqu'on va voir qu'au bout de 2 ans, vous n'avez jamais revu vos enfants, et qu'au bout de ces 2 ans, et quelques mois d'ailleurs, on va voir que vous avez été obligé de voir ces enfants en Égypte. Vous restez avec nous, Christelle. On va justement continuer à parler de votre histoire, de savoir de quel droit vous bénéficiez alors que vos enfants étaient en Égypte et donc sous le coup de la loi égyptienne, avec un mari qui, je dois le préciser, était quand même quelqu'un qui était quand même bien placé, ce qui n'a pas dû rendre facile votre histoire. On se retrouve dans quelques instants, Christelle.
Europe 1. Comment réagir quand son ancien conjoint refuse de ramener son ou ses enfants après son droit de garde ? C'est votre histoire et si vous souhaitez témoigner, on vous écoute au 3921. Vous nous écrivez aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Que faire contre les enlèvements parentaux ? Quelles sont les démarches pour retrouver son ou ses enfants partis à l'étranger ? Olivier Delacroix vous écoute. Vous composez le 3921.
Et nous sommes toujours avec Christelle qui nous expliquait que ses enfants étaient partis en vacances d'été chez leur père égyptien au Caire et que ses enfants n'étaient jamais rentrés de vacances et que ce n'est qu'un an et 3 mois après, non 2 ans, comme je l'ai annoncé, que vous avez pu revoir vos enfants. On va voir dans quelles conditions vous les avez revus, ces enfants, Christelle, mais vous avez vite compris qu'il s'agissait d'un enlèvement parental, que vous n'alliez pas revoir vos enfants d'aussitôt. Quelle démarche avez-vous entrepris pour essayer de faire valoir vos droits ? Parce que c'était le droit égyptien là, qui prévalait.
Alors, la première démarche, en fait, c'est d'essayer de trouver des institutions qui puissent me donner des informations, parce que c'était tellement quelque chose de surprenant, enfin, de mon point de vue, de mon point de vue pour commencer.
Oui, de sidérant.
Je n'avais absolument aucune direction ni aucune idée de tout ce qui pouvait être mis en œuvre, de tout ce qui devait être mis en œuvre, de la façon dont je pouvais essayer de faire rentrer les enfants. C'était quelque chose de complètement nouveau et inattendu. Donc tout ce qui concerne la législation, les
droits
conventions
que vous avez...
légales. C'était vraiment pas quelque chose sur lequel moi je m'étais penchée, donc je n'avais vraiment aucune information sur le sujet.
De qui, auprès de qui vous avez été chercher ces renseignements ? Est-ce que c'est le ministère des Affaires étrangères qui vous aide à ce moment-là ?
Alors, la gendarmerie, la police de l'aéroport où je suis allée chercher Karim et Sarah, tout de suite m'ont dit « Madame, appelez le 116 000,
oui.
Enfant disparu ». Il se trouve que, c'était en 2010, nous étions un samedi. Ce jour-là, j'ai appelé le 116 000 avec la police à côté de moi. 116 000 était fermé, c'était samedi. Donc voilà, a priori aujourd'hui, ça a bien changé. À l'époque, c'était ça. Donc j'ai eu quand même tout le week-end pour essayer de prendre des informations, essayer de contacter un avocat, parce que c'était ma seule source d'informations à ce moment-là. Et puis après, les choses ont commencé à s'enclencher relativement vite. À partir du moment où j'ai eu un avocat, ça a été la première porte d'entrée, en fait, sur les démarches à faire. Ensuite, le 116 000 a initialisé un certain nombre de choses. Très vite, j'ai été orientée vers le ministère des Affaires étrangères. Et puis moi, à titre privé, parce que c'était la seule chose que je concevais, les seules personnes que je concevais de contacter, c'était le consulat sur place.
Mais justement, Christelle, le consulat du Caire qui vous a sans doute épaulé, cela fait aujourd'hui 3 ans que vous n'avez pas vu vos enfants, alors que vous dites que cet enlèvement, vous avez les preuves qu'il a été prémédité, vous avez amené ces preuves en Égypte. Comment se sent-on après 10 ans d'acharnement judiciaire, de doute, parce que force est de reconnaître que le droit égyptien aujourd'hui continue de donner raison à ce père. Le droit de l'enfant, de vos enfants, leur intérêt n'est pas du tout pris en compte par la justice égyptienne.
Alors le droit égyptien, il est, ma foi, il est un peu l'équivalent du droit français. Donc les enfants étant en Égypte, le droit égyptien s'applique. Ce qui ne s'est pas appliqué pour mille et une raisons, ce sont les conventions de coopération judiciaire entre l'Égypte et la France, qui pourtant existent, que les deux pays ont signées. Ça ne s'est pas appliqué.
C'est justement ce que je souligne, Christelle, c'est que les deux législations paraissent se ressembler, sauf qu'il y avait une décision de justice française et que les accords qui nous lient à l'Égypte auraient dû donc faire que cette décision de la justice française soit appliquée et que non seulement vous récupériez vos enfants, mais que votre ex-conjoint soit condamné. Or, il est encore avec ses enfants aujourd'hui et libre.
Libre et les enfants ne sont pas
revenus.
Revenus.
Comment vous l'expliquez, ça, alors?
Parmi les raisons, l'une des raisons de mon point de vue, c'est peut-être pas assez d'actions diplomatiques. Mmh. Il y en a eu, certes.
Votre mari est quelqu'un qui est bien placé, qui est protégé quelque part?
Oui, a priori, oui.
Oui.
Mais je me dis qu'il y a un moment où toute protection qu'il y ait, sur le fond de l'histoire, il s'agit quand même de protection d'enfants.
Bien sûr.
Et c'est ça qui devrait primer sur tout le reste.
Est-ce qu'aujourd'hui, Christelle, vous êtes résignée ou toujours aussi combative ou alors fatiguée?
Les trois à la fois. Ouais. parce que c'est impossible d'être de manière constante combative.
Oui.
parce que il y a des chocs qui sont extrêmement rudes à encaisser et que soit on arrive à les encaisser, soit on n'y arrive pas, soit c'est très très long à digérer. Quoi qu'il en soit, jusqu'à présent j'ai toujours réussi à me relever, mais ça n'a pas été toujours facile de le faire. C'est un combat qui n'est pas simple, qui est semé d'embûches et de grosses embûches. Donc voilà, il y a des moments où je suis extrêmement combative parce que sinon, les embûches, on n'arrive pas à passer par-dessus, on n'arrive pas à les détourner, on n'arrive pas à les contourner. Donc on alterne un petit peu. L'idée, c'est de se dire qu'au bout du compte, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, je n'ai pas vu les enfants.
Et aujourd'hui, vous n'avez pas revu vos enfants. Ils sont toujours en Égypte. Merci infiniment, Christelle, pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, bien évidemment, je vous souhaite de trouver toute l'énergie possible pour rester combative, même si la fatigue vous gagne par moment. Je vous sais très entouré aussi par votre famille qui vous soutient. Et ne pas lâcher ces enfants dont le droit et les intérêts sont encore bafoués par la justice égyptienne aujourd'hui. On va continuer à parler de ces enlèvements parentaux et des difficultés que les parents, les grands-parents aussi rencontrent, parce qu'il y a des grands-parents derrière qui attendent leurs petits-enfants, avec Ala Diouka. Elle est juriste dans l'association justement 116 000 enfants disparus et spécialiste en droit international de la famille.
Europe 1. Qu'est-ce qui pousse un parent à kidnapper son propre enfant? C'est votre histoire, nous vous écoutons au 3921. Vous composez le 3921 pour venir témoigner sur l'antenne d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons des enlèvements parentaux. Quand un parent refuse de ramener un enfant ou ne respecte pas les droits de visite, nous vous lisons aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Ala Diouka, juriste à 116 000 enfants disparus et spécialiste en droit international de la famille. Bonjour, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour Olivier, merci de votre invitation.
Madame, je vous en prie. À partir de quel moment parle-t-on, à la Duca, d'un enlèvement parental? Peut-on parler de kidnapping aux yeux de la loi?
Il faut distinguer plusieurs choses. Un enlèvement parental, ce n'est pas un terme juridique. Donc, c'est l'expression qu'on utilise à l'oral,
oui,
et qui regroupe beaucoup de nations. Quand on est en droit français, donc quand on est en France, il y a les atteintes à l'autorité parentale qui sont précisées dans le code pénal. Donc il s'agit de la soustraction des mineurs et de non-représentation d'enfants. Quand on bascule au niveau international, il y a les textes des conventions internationales ou les conventions bilatérales qui utilisent plutôt le terme « un déplacement illicite d'enfants ».
Oui.
Le terme kidnapping, c'est le terme utilisé beaucoup par les Américains aux États-Unis.
Mmh.
C'est plutôt le monde anglo-saxon.
Alors, quand on écoute le témoignage de Christelle, cette situation qui paraît vraiment injuste et révoltante, comment expliquer que personne, je dis personne parce que ses enfants, elle ne les a pas revus depuis 3 ans, pourtant des accords existent entre l'Égypte et la France, une décision de justice a été prise pour la garde de ses enfants, comment se fait-il que personne ne respecte cette décision de la justice française ?
Les dossiers au niveau international sont très complexes. Donc, pour un peu situer les gens qui nous écoutent dans ce contexte juridique, je voudrais commencer par le fait qu'on peut distinguer 3 situations différentes au niveau international.
Donc, oui.
Quand un enfant est déplacé de la France vers un pays qui est lié avec la France par la Convention de la Haye, donc c'est un texte au niveau international qui prévoit un retour immédiat de l'enfant dans le pays de sa résidence habituelle. Donc avec l'Égypte, l'Égypte n'a pas adhéré à cette convention, donc ce texte-là ne s'applique pas.
D'accord.
Avec l'Égypte, il y a une convention bilatérale. Il est le problème des conventions bilatérales que ces conventions s'appuient souvent sur la nationalité des parents.
Oui.
Et ces conventions ne prévoient qu'un retour à l'amiable. Ça signifie que la personne qui a déplacé l'enfant, elle n'a pas d'obligation de rendre l'enfant. Donc cette personne sera auditionnée et on va lui proposer de rendre les enfants à l'amiable.
Mais pardonnez-moi de vous interrompre, mais je rappelle que cet homme, hein, le conjoint de Christelle, a été condamné donc à 3 ans de prison toutefois il reposait le pied sur le droit français. Et il me semble important de le dire.
Oui, il est important de le dire. Et de ce fait, il faut que je précise comment ça fonctionne, la coopération pénale internationale.
Oui.
Donc, monsieur a été condamné par la France, donc la France reconnaît cette condamnation. Mais pour qu'on puisse faire agir un mandat d'arrêt international, il faut que le pays où se trouve la personne condamnée, d'abord, il faut que ce pays reconnaît l'infraction pour laquelle donc le père en question a été condamné.
Oui.
Donc en France, atteinte à l'autorité parentale, c'est bien une infraction pénale. Il y a les pays où il peut s'agir d'une infraction administrative, donc on ne peut pas faire jouir un mandat d'arrêt international. Et l'autre obstacle, il y a les pays qui ne procèdent pas à l'extradition de ces nationaux.
Mmh.
Donc déjà, il n'est pas facile d'obtenir ce mandat d'arrêt international, mais par la suite, il faut le faire appliquer.
On voit en tout cas combien tout cela est difficile pour le parent qui reste en France, dont l'enfant a été déplacé, comme vous le dites, hein, je reprends les termes que vous avez employés, à l'étranger. On va voir comment vous accompagnez ces familles au quotidien. On va continuer à parler de toute la complexité de ces situations avec vous, à la Duca. Vous restez en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes juriste à 116 000 enfants disparus, le numéro d'urgence que l'on peut composer en cas d'enlèvement parental, et que vous êtes spécialiste en droit international de la famille. Dans quelques instants, nous accueillerons Claude. Sa belle-fille est partie avec ses petits-enfants du jour au lendemain au Japon, pays qui a une législation bien particulière. On va en parler avec Claude. Aujourd'hui, il veut faire entendre sa voix de grand-père, mais surtout celle du père de ses enfants, son fils.
Et Sylvain, 48 ans, témoigne au 39-21. En 2015, j'ai eu un petit garçon avec une femme étrangère. Nous avons divorcé. Elle a quitté le pays avec notre enfant. Je me bats depuis 2 ans pour revoir mon fils. Elle est en Ouzbékistan.
Europe 1.
Les enfants qui disparaissent, enlevés par l'un de ses parents. Quels sont les recours? Vous témoignez, nous vous écoutons au 39-21, 50 centimes la minute, à tout de suite. Des enfants victimes d'enlèvement parental, vous ne revoyez plus vos enfants enlevés par l'autre parent. Quelle a été votre bataille judiciaire? Vous témoignez sur Europe 1, Olivier Delacroix vous écoute.
Et nous sommes en ligne avec Claude. Bonjour Claude, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, je vais résumer et synthétiser ce qui vous arrive, Claude, à vous, votre fils et à sa famille, vous, ses parents. Le 10 août 2018, pardon, votre fils qui vit au Japon est rentré du travail et a retrouvé sa maison vide. Sa femme était partie donc avec ses 2 enfants. Depuis, c'est une véritable bataille judiciaire qui s'est engagée. Votre fils a mis du temps avant de vous prévenir de ce qu'il se passait dans ce pays où lorsque les enfants sont enlevés, eh bien, au sein même de ce pays, il est très compliqué pour un parent français de faire valoir ses droits. Très rapidement, s'est engagé un combat au Japon, comme en France d'ailleurs. Quand votre fils vous a annoncé cet enlèvement, quel a été votre premier sentiment ?
Alors, il nous a annoncé cet enlèvement une dizaine de jours après.
Oui.
Et très rapidement, il nous a expliqué ce qui se passait généralement dans ces situations au Japon. Et là, c'est un peu de suite, ça a été un sentiment de panique, un peu de désespoir, et puis d'impuissance surtout, mm-hmm. surtout d'impuissance. Mm-hmm. Il a fallu vraiment qu'on a mis du temps à prendre conscience, à prendre nos marques pour pouvoir, lui là-bas, s'engager dans une bataille, et puis nous l'aider dans des démarches en France ici. Pour essayer de sortir de cette situation. Quoi.
Mmh. Alors, les démarches en France, vous paraissent-elles aujourd'hui importantes tout de même au regard de la justice japonaise qui donne tous les droits à cette mère qui a enlevé ses enfants ? Le terme de déplacement, on en reparlera avec Alain Ducat, me paraît un peu en deçà de la réalité, puisque votre fils a longtemps été privé même de ses enfants sans savoir vraiment où ils étaient.
Ah non, mais actuellement, ça fait dix mois que les enfants, moi je parle d'enlèvement, hein, ont été enlevés. Il n'a eu aucun contact avec eux, il n'a pas pu les voir.
Et mais il sait où ils sont ?
Les autres... Non, pas du tout.
Pas du tout. D'accord.
Pas du tout, il ne sait pas du tout où ils sont. Et les autorités japonaises lui ont même dit que s'il essayait d'entrer en contact avec eux ou de les voir, ils seraient interpellés pour harcèlement, voire tentative de kidnapping. Mmh.
On a vu récemment sur France 2 un sujet d'envoyé spécial qui était particulièrement prenant, où l'on voyait des pères affronter cette justice nippone implacable, froide, et qui défend bec et ongle ces mères qui ont enlevé leur progéniture. Comment est-ce que vous vivez ça ? Parce que vous dites que vous êtes aussi devenu le secrétaire de votre fils.
Ben, écoutez, nous tant que nous sommes dans le combat, tant qu'on a des choses à faire, qu'on peut mener des actions médiatiques, ça va, ça nous tient, ça nous donne de l'espoir, et on pense pas à autre chose.
C'est votre seule arme aujourd'hui, Claude, hein, j'ai l'impression, les actions médiatiques.
Tout à fait, parce que le Japon ne considère pas que ma belle-fille a commis un enlèvement. Ils appellent ça, eux, un déplacement. Par contre, mon fils commet un enlèvement s'il essaye de récupérer ses enfants.
Oui.
Voilà. Après, le Japon considère que l'éducation monoparentale est la meilleure pour l'enfant. Et il confie généralement la garde, quasiment à 100%, oui. la garde aux parents qui a kidnappé les enfants le premier.
Comment est-ce que vous appréhendez les mois et les semaines à venir avec l'attitude de cette mère dont on s'explique vraiment le geste, hein, puisque vous venez de dire que voilà, on donne les enfants à 100% aux femmes. Comment est-ce que vous appréhendez l'avenir ?
Je rectifie, si vous le permettez. On ne donne pas spécialement 100% aux femmes. On donne les enfants aux parents qui kidnappent.
Ah, aux parents qui kidnappent.
Bon, aux parents qui... Voilà. Aux parents
excusez-moi,
qui kidnappent.
J'avais compris, aux mères, en fait.
Non. Et bon, dans la plupart des cas, ce sont des mères qui commettent ça. Mais on a des papas qui commettent ça aussi. Et on a au Japon des mères qui sont victimes de, mmh. cette, mmh. de cette procédure. Mmh.
Vous appréhendez, je suppose, donc difficilement les semaines à venir.
Oui, parce que malheureusement, on est entouré d'exemples. Mmh. On est entouré d'exemples et il faut savoir qu'au Japon, cette manière de procéder est très courante et qu'il y a, à l'heure où je vous parle, entre 3 et 3,5 millions d'enfants totalement privé d'un de ses deux parents au Japon.
C'est assez hallucinant de vous entendre dire que les droits reviennent à celui qui a kidnappé. Alors, bien évidemment, Claude, je vous souhaite beaucoup de courage dans cet accompagnement qui est le vôtre aujourd'hui pour votre fils. Et puis, j'incite bien évidemment tous ceux qui nous écoutent à aller sur le net retrouver ce sujet qui a été fait par Envoyé Spécial il y a à peu près 3-4 mois pour prendre conscience de l'ampleur de ces enlèvements et puis de considérer et peut-être de se rapprocher et d'aider ces familles qui vivent un véritable enfer. C'était Envoyé Spécial spécifiquement sur ces ces enlèvements d'enfants au Japon. Merci Claude, bon courage bien évidemment. Dans quelques instants, nous serons avec Maria. Il y a presque 4 ans, sa fille a été enlevée par son ex-mari. Aujourd'hui, elle garde espoir et elle se bat au quotidien.
Europe 1. Nous parlons de l'enlèvement parental. Par quoi êtes-vous passé pour tenter de récupérer vos enfants enlevés par votre ex-conjoint? Si vous souhaitez apporter votre témoignage, vous n'hésitez pas à nous appeler au 3921. Quand un conflit à propos de la garde des enfants prend une dimension dramatique, nous parlons de l'enlèvement parental avec vous au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Maria. Bonjour Maria, soyez la bienvenue sur Europe 1.
Oui, bonjour Monsieur Olivier, bonjour tout le monde.
Bonjour
Maria. Bonjour Madame Duca.
Bonjour, je crois que vous appelez de Tunisie. Hein ?
Exactement, oui.
Quel âge avez-vous, Maria ?
Moi, j'ai 31 ans.
31 ans. Alors, je vais raconter un petit peu votre histoire. Lorsque votre fille a eu 1 an, vous avez senti que votre mari était bizarre. Je reprends vos propres mots. Il l'emmenait en promenade, puis revenait 1 heure après. Puis vous avez commencé à vous douter qu'un enlèvement parental pouvait arriver. En novembre 2015, il n'est jamais revenu d'une de ses balades. Il vous a envoyé un message pour vous dire qu'il était en Tunisie avec elle. À partir de ce moment-là, comment avez-vous réagi, Maria, et qu'est-ce que vous avez entamé comme combat ?
En fait, voilà, c'est-à-dire, c'est vrai que le comportement de mon ex-mari, il a été très bizarre, surtout quelques jours avant de l'enlèvement, c'est-à-dire qu'il a pris une habitude qu'il n'a jamais fait avant, et il a emmené en promenade pendant 1 heure le matin, parce qu'il faut savoir que la petite, elle a été exclusivement allaitée. Donc il me l'a ramené systématiquement 1 heure après, sauf voilà vendredi 20 novembre 2015, et ben il me l'a pas ramené. Mmh. Voilà, il me l'a pas ramené. Il est parti avec elle, sans affaire de la maison parce qu'il y a tout qui restait. Il avait pris juste elle. Je pense que les jours d'avant cette histoire de l'emmener en promenade. Ça a été pour me mettre en confiance, parce oui. que c'est vrai que les premiers jours, je le suivais, en fait, parce que tellement c'était inhabituel que voilà, je le suivais. À un moment, je me suis dit, OK, il n'y a pas de mal, il peut la promener un tout petit peu. Mais voilà, il a abusé encore une fois, on dirait, de la...
Il vous a mis en condition de lui faire confiance. Il a prémédité totalement cet enlèvement. C'était difficile d'avoir des interlocuteurs tout de suite lorsque vous avez décidé de partir en Tunisie à la recherche de votre fille, parce que vous êtes parti en Tunisie. La Tunisie où le droit est censé en fait être un droit qui ressemble à celui de la France. Pourtant, aujourd'hui, depuis novembre 2015, vous n'avez pas revu votre fille.
Voilà. Mes premiers interlocuteurs, c'était l'association 116 000,
oui.
que moi-même, j'ai déniché en fait sur Internet parce que j'ai cherché à avoir de l'aide. J'ai cherché vraiment tout de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'ai gagné beaucoup de jugements, beaucoup d'actions, c'est que parce que j'ai bougé tout de suite en Tunisie.
Oui.
Et c'est vrai que c'est l'association 116 000 et particulièrement Madame Diouka qui m'a aidée, qui m'a conseillée dès le début qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est vrai que c'était tellement important pour moi.
Oui.
Donc je la remercie vraiment. Et donc, je suis allée sur place tout de suite, en
oui.
Tunisie. J'ai compris que quand j'ai essayé de contacter mon ex-mari ou la famille qui habite sur Msakène, sur place, il n'y a pas de réponse. Il ne m'a jamais répondu. Et quand j'ai essayé de parler aux parents, ils m'ont pas laissé rentrer dans la maison.
Oui.
Personne ne savait rien, bien sûr, sauf le père qui, au début, faisait en sorte qu'il était de mon côté. Alors pas du tout, parce que j'ai compris avec le temps, avec des preuves, que c'est bien lui qui a été chercher mon ex-mari
oui.
à l'aéroport.
Il y a eu dans votre histoire une mise aussi en condition de la part de vos beaux-parents qui ont toujours été du côté de leur fils et qui ont toujours fait en sorte de lui faire gagner du temps pour justement que vous ne retrouviez pas votre fille. Qu'en est-il aujourd'hui des procédures qui sont en cours en Tunisie ? On parlera aussi ensuite de votre site pour que l'on puisse aider à retrouver votre fille et comment y accéder. Mais quelles sont les procédures aujourd'hui en Tunisie en cours et est-ce que vous avez espoir quand même ?
Alors juste, je reviens sur le point d'avant, juste vite fait. C'est pas uniquement les parents qui ont fait en sorte qui gagnent du temps.
Oui.
C'est vraiment toute la famille. C'était un complot familial parce que c'est le frère qui a ramené justement mon ex-mari avec ma fille en Italie pour qu'ils puissent partir de l'Italie. Mmh. Voilà.
Mais pardonnez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous vous sentez tout de même épaulé, soutenu par la justice tunisienne, ou est-ce que là encore, comme on l'entendait tout à l'heure avec Christelle, eh bien c'est celui qui enlève, qui est en Égypte, hein, et égyptien ou tunisien, qui est protégé en fait?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Moi, non, je pense pas que c'est tout à fait pareil que cette dame en Égypte. C'est ce qui s'est passé que quand je suis partie en Tunisie début décembre 2015, et que j'ai vu que ça va pas aboutir à quelque chose à l'amiable avec mon ex-mari.
Oui.
Voilà, donc du coup, j'ai enclenché une affaire, j'ai porté une plainte ici en Tunisie. L'affaire, elle a été portée tout de suite devant le tribunal à Sousse. C'est vrai que quand on était chargés tous les deux devant la juge, d'ailleurs c'est là où j'ai vu pour la dernière fois mon ex-mari, Tarek, et donc du coup la juge, au bout de quelques heures, elle a donné le jugement qui indique que voilà, j'ai la garde de l'enfant avec des droits de
visite du père.
Avec des droits de visite, voilà.
Alors, voilà, ça c'est plutôt bien de savoir que la justice tunisienne vous a suivi, Maria. Nous n'avons plus que quelques secondes, parce que malgré cette décision de justice, le père a fait outre. Voilà, il a mis une croix hein, sur cette décision, et puis il s'est enfui avec votre fille, et aujourd'hui vous la cherchez toujours. Une dernière, voilà, dites-moi comment on peut trouver votre site sur Internet pour pouvoir vous aider à retrouver votre fille très rapidement, s'il vous plaît.
Voilà, alors, il y a un site qui est dédié exclusivement à la recherche de ma fille. Il s'appelle www.jena-justice-landolcy.fr.
Oui.
Également une page Facebook qui s'appelle « À la recherche de ma fille Jena » où on peut trouver des photos, des informations, tout le combat, les membres qui ont participé à cet enlèvement. Voilà, plein de choses. Et bientôt aussi, il y a une cagnotte qui sera mise en place pour
vous aider,
actions.
Alors, « À la recherche de Jena », pareil pour l'adresse Facebook. Facebook, c'est la page Facebook. Pareil pour votre site. Vous êtes nombreux voilà, originaires de Tunisie à nous écouter. Vous nous écoutez aussi en Tunisie, donc allez sur cette page et soutenez Maria qui recherche sa fille depuis 2015 et que la justice tunisienne eh bien, a porté et puis a confirmé dans la garde de cet enfant. Cet enfant a aujourd'hui été enlevé, kidnappé par son père et là encore, on bafoue l'intérêt et le droit de l'enfant. Dans quelques instants, nous parlerons avec Adam, dont le fils a été lui aussi enlevé et qu'il a réussi à récupérer. Pardon.
Europe 1.
Les enlèvements parentaux, un rapt traumatisant pour le parent qui reste sans nouvelles de ses enfants emmenés à l'étranger. Votre parcours au 39-21. Que faire contre les enlèvements parentaux? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Adam sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Adam. Soyez le bienvenu, bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Adam?
Pardon, je n'ai pas entendu.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 36 ans et je vous appelle de Marseille.
D'accord. Alors vous, Adam, on va aller droit au but, hein, puisque votre enfant a été enlevé en 2017 et puis vous l'avez récupéré. D'abord, ma première question, et je vous demande d'aller vite, c'est étiez-vous au courant des difficultés et des différentes législations ici et là qui compliquaient la récupération d'enfants qui avaient été kidnappés, enlevés par l'un des deux parents et est-ce que c'est cela qui vous a motivé pour agir comme vous allez nous le raconter?
Alors, pas du tout. J'étais pas du tout au courant. Alors effectivement, moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai agi extrêmement rapidement, hein, contrairement au témoignage de
Maria,
grands-parents là,
ou de Claude. Oui.
voilà, de Claude. J'ai très très vite compris qu'il s'agissait d'un enlèvement et donc j'ai alerté les autorités compétentes. Hein, j'ai pris contact avec le ministère de la Justice et j'ai pris contact aussi avec l'association 116 000,
oui.
Donc une juriste hein, qui était au téléphone et qui m'a conseillé pas à pas. Effectivement, donc j'ai agi extrêmement rapidement. Donc je me suis renseigné sur le code pénal algérien, sur le code de la famille algérien, et très 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 rapidement, en fait, j'ai identifié que ça serait très très compliqué de ramener mon fils en France un jour si mon ex-femme obtenait le divorce. Parce qu'en fait, depuis 2005 en Algérie, lorsque l'épouse obtient le divorce, elle obtient également l'autorité parentale.
Oui.
Et donc, vous ne pouvez pas ramener votre enfant sans l'accord de madame.
Alors, nous, on a très peu de temps, on n'a plus qu'une minute trente. Dites-moi comment vous avez justement agi, Adam. Et comment avez-vous récupéré votre fils ?
Eh bien, je suis allé en Algérie plusieurs fois. J'ai pris un avocat.
Oui.
Et donc j'ai demandé à voir mon fils, donc je suis allé chez mon ex, parce que je savais où elle habitait, et donc elle a refusé de me représenter l'enfant, donc je l'ai attaqué au pénal pour non-représentation d'enfant en Algérie.
Oui.
Donc par rapport à ça, elle a pris peur, donc ça a duré plusieurs mois hein, quand même, et elle a finalement dédaigné me le représenter avant que le jugement de divorce algérien arrive, et du coup c'était ma dernière chance de rentrer en France avec mon fils. Si j'aurais attendu, je n'aurais pas pu.
Donc, et en cette fait, chance, voilà. Vous l'avez prise. Elle a duré 2 heures, le temps de rejoindre l'aéroport pour que vous vous envoliez avec votre fils, c'est ça ?
Complètement. Mon ex habitait la banlieue d'Alger, hein, donc je suis allé directement à l'aéroport d'Alger. J'ai demandé une modification des billets. Heureusement, j'avais les passeports de mon fils.
Hein, oui.
J'avais tout prévu.
Heureusement.
Donc j'avais les passeports de mon fils et j'ai pris le premier avion pour Marseille. Et j'avais passé à la PAF et ça s'est joué à 10 minutes près, hein, puisqu'ensuite la famille de mon ex est venue à l'aéroport, mais j'avais déjà passé la PAF.
Et donc,
je ne pouvais plus rien faire.
Voilà, et votre petit est aujourd'hui de retour à Marseille, où la justice en avait décidé ainsi, sa mère avait décidé de l'enlever. Et c'est bien là l'intérêt et le droit de votre enfant que vous avez défendu, Adam. Et pour cela, bravo. Merci pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci à Christelle, merci à Claude et à Maria de nous avoir appelés. Merci à vous, Ala Diourka, pour vos éclairages et vos conseils. Je rappelle que vous êtes juriste dans l'association 116 000 enfants disparus et spécialiste en droit international de la famille. Si vous craignez un enlèvement parental, vous pouvez saisir le juge des affaires familiales qui pourra modifier les droits de l'autre parent dans l'intérêt de l'enfant ou demander à la préfecture une opposition à la sortie de territoire pour votre enfant. En cas d'enlèvement parental, il faut absolument saisir la police en premier, la justice bien évidemment, mais aussi le 116 000 qui est le numéro d'appel d'urgence gratuit. Et nous avons vu combien il était important pour les parents qui étaient victimes de ce type d'enlèvement, combien cette association 116 000 enfants disparus soutient et accompagne ses parents. Il est important de se faire accompagner et cette association va vous accompagner. Vous pouvez continuer bien évidemment à en discuter sur les réseaux sociaux.
Et sur le groupe de l'émission. Sur la page Facebook d'Europe 1 et Olivier Delacroix officiel sur Instagram.
Europe 1.
Demain, nous parlerons de l'adultère. Jusqu'où peut mener l'adultère ? Est-ce une liaison dangereuse ? Ce sera notre sujet donc de demain. Si vous êtes la maîtresse ou l'amant et que cela vous convient parfaitement, si au contraire vous supportez mal cette situation d'adultère, si vous avez une liaison adultérine depuis longtemps, eh bien n'hésitez pas à nous appeler au 3921 dès maintenant pour nous parler de votre histoire.